7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui s'ouvre le sommet de Marrakech pour discuter du pacte mondial sur les migrations des Nations Unies. Un sommet qui divise plus que jamais les pays d'accueil et les opinions internationales. C'est dans ce contexte que je reçois l'essayiste Stephen Smith pour son livre « La ruée vers l'Europe, la jeune Afrique en route vers le vieux continent » aux éditions Grasset. Bonjour Stephen Smith.
Bonjour.
Vous êtes américain, vous enseignez à l'université Duke en Caroline du Nord. Vous êtes de passage en France parce que votre livre vient de recevoir le prix de l'Académie française. C'est un texte qui par ailleurs est critiqué par certains démographes pour ses scénarios alarmistes ou plus plausibles. Si personne ne conteste bien sûr l'extrême jeunesse du continent, 4 Africains sur 10 au sud du Sahara ont moins de 15 ans, faut-il le rappeler, 7 sur 10 ont moins de 30 ans. Vous parlez d'un continent d'enfants et de jeunes avec une réelle pénurie d'adultes. Votre hypothèse d'une Europe qui compterait dans 30 ans entre 150 et 200 millions d'Afro-P1 contre 9 millions à l'heure actuelle est discutable, on va en discuter. Alors bien sûr, je vous pose la question à vous les voisins et les voisines. L'Afrique, jeune, dynamique, émergente, va-t-elle massivement partir pour l'Europe dans les 30 années à venir? Vos réactions bien sûr nous intéressent, surtout si vous êtes jeune. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez nous appeler gratuitement et poster tous vos messages. En direct du sommet de Marrakech, on sera également en ligne avec le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, Issiaka Konaté. Et enfin, à l'occasion des 70 ans des droits de l'homme, nous ferons un point sur Internet comme droit humain au XXIe siècle avec Julie Owono, directrice de l'ONG Internet sans frontières. Et puis en fin d'émission, l'Afrique qui gagne, comme chaque lundi, portrait aujourd'hui de Mamadou Sall, sénégalais, 30 ans. Il a cofondé une bourse agricole qui met en relation des agriculteurs sans accès au financement bancaire et des investisseurs en ligne. Et Stephen Smith, bien sûr, vous nous direz ce que vous inspire un jeune Africain à l'opposé de vos scénarios de départ pour la vieille Europe. Voilà, bien sûr, je vous redonne notre numéro de téléphone, les voisins, les voisines. 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages postés sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Sako à Conakry nous dit « Moi, je suis de Conakry, diplômée depuis 2012 en administration des affaires. Je me bats pour trouver du travail, mais l'État ne fait rien pour nous accompagner les jeunes. Alors oui, forcément, je suis tentée par l'Europe. » Bourgeois, Anjamena, on ne part pas en Europe pour le plaisir. Nous voulons bien rester sur le continent, mais nos présidents dinosaures ne nous facilitent pas la tâche. Au Tchad, on forme les jeunes, mais pas d'emploi. La fonction publique, qui est le premier employeur du pays, est fermée pour 5 ans. Le climat des affaires est désastreux, nous dit Bourgeois. Comment nous, jeunes, pouvons-nous vivre dans cette situation-là? Notre situation est invivable, on veut seulement l'essentiel vital. Latif poste sur Twitter, que font les chefs d'État en Afrique? Quand comprendront-ils qu'il faut cesser de piller leur propre pays, de maltraiter leur population, de détruire les ressources de leur pays? Aristide également poste le message suivant, notre souhait, c'est que cette migration s'arrête, elle n'est ni bénéfique pour les Africains, ni pour les Européens qui d'ailleurs n'en veulent pas, et en plus elle a des conséquences terribles, esclavage au Maghreb, souffrance et racisme en Europe, en gros c'est à combattre. Je vous lis un dernier message, Eliman nous dit « La formation professionnelle, c'est la solution à ce fléau. Avoir une qualification dans un métier pratique comme la chaudronnerie, la tuyauterie, c'est la solution de l'émergence. » Voilà, je vous rappelle le numéro de téléphone, on a envie de discuter avec vous de vive voix, 33 1 84 22 71 71. Stephen Smith, beaucoup d'internautes accusent la gouvernance en Afrique, mais dans votre livre, finalement, vous ne placez pas la gouvernance au centre des désirs de migration des jeunes. Vous ne placez pas la gouvernance comme le principal problème.
Non, je comprends très très bien qu'on soit critique à l'égard des gouvernements. Souvent, ils le méritent. Quand j'étais journaliste, je l'étais moi aussi. Mais je me suis aperçu du fait que même le gestionnaire le plus vertueux, le plus avisé, le directeur de la Banque mondiale, pour prendre un exemple, n'aura pas pu gérer cette avalanche démographique. Donc finalement, quand vous avez besoin besoin de créer 22 millions d'emplois par an. Vous êtes face à un investissement démographique, dont parlait Alfred Sauvy, qui est impossible. Vous devez créer des écoles, des hôpitaux, des routes pour une population qui s'agrandit si rapidement que finalement il n'y a pas d'issue. Donc il faut peut-être continuer à être critique à l'égard des gouvernants, regarder ce qu'ils font, mais il faut aussi se rendre compte qu'on est face à une gageure, c'est impossible dans l'état actuel, et donc se poser des questions peut-être sur le planning familial. À court terme, c'est évidemment un peu de consolation pour les personnes concernées. Ce que je trouve vraiment très intéressant et réaliste, c'est la tonalité sur la migration. C'est un pis-aller, ce n'est pas forcément une bonne chose pour l'Afrique, donc on ne glorifie pas les rétro-transferts, on ne dit pas que l'argent renvoyé au pays va développer le pays. Je trouve là un réalisme. Je dois avouer aussi que, malgré mon analyse, si j'étais aujourd'hui africain dans la situation de ces personnes, je ferais exactement la même chose qu'eux.
Alors, vous le dites, il faudrait créer aujourd'hui 22 millions d'emplois par an pour donner du travail aux jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Pour vous, la démographie du continent va donc produire mécaniquement le désir de quitter son pays. C'est la démographie qui va tout emporter sur son passage.
Non, c'est toujours la volonté, j'hésite à dire la libre volonté parce que c'est sous les contraintes, mais c'est finalement toujours l'homme qui décide, c'est une personne qui se décide face à une circonstance de vie où les chances ne sont pas de son côté en quelque sorte. Donc c'est pas mécanique. D'abord, et c'est pas seulement la croissance, c'est ce profil démographique. Quand vous êtes parmi des jeunes et tous les jeunes cherchent un travail, vous êtes comme dans une immense salle d'attente. Et vous savez très bien que votre voisin avec lequel vous partagez la condition est plutôt votre compétiteur que votre allié, puisqu'il aspire à la même chose. Et toutes les transitions démographiques, donc les précédents historiques, nous enseignent que les plus dynamiques, pas les plus pauvres, les plus dynamiques, finalement, cherchent ailleurs, cherchent une sortie. Et ça s'est fait pour l'Europe, ça s'est fait pour l'Amérique latine, ça se fera aussi pour l'Afrique. La question est dans quelle dimension, dans quelle mesure.
Alors, l'ailleurs, reste à savoir aussi où se fera l'ailleurs. Vous vous dites, c'est l'Europe. Actuellement, 70% des Africains qui quittent leur pays s'installent dans un autre pays du continent.
Oui, c'est un argument qui, je dois dire, m'a beaucoup lassé parce qu'il y a 30 ans, c'était 95% qui restaient en Afrique. C'est-à-dire, si vous regardez dans 30 ans, le pourcentage sur 10 Africains migrants, il n'y aura plus 7 qui restent au pays ou sur le continent, mais plutôt 3 ou 4. Et en même temps, du fait de la croissance démographique, on va passer de 1,3 milliard d'Africains à 2,5, donc quasiment doublé. Donc vous avez un pourcentage qui augmente, ceux qui quittent le continent, sur une masse totale qui augmente aussi. Donc se tranquilliser l'esprit en disant 7 sur 10 restent en Afrique, c'est une mauvaise médecine, je crois.
Pour le moment, en tout cas. Le Fonds monétaire international prédit qu'en 2050, on aura environ 34 millions de migrants africains qui seront installés dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Vous parlez de 150 millions.
Non, vraiment, il faut arrêter ça. Quand vous voulez prévoir l'avenir, vous partez des réalités qui existent. J'ai à peu près une dizaine de cas de figure, et donc je compare avec la migration européenne, mexicaine, et entre autres choses.
Mais une fois, c'est un pays beaucoup, beaucoup plus développé, beaucoup plus riche, avec une classe moyenne beaucoup plus importante.
Mais la migration a commencé en 75, au milieu des années 70, et 10 millions de Mexicains sur 60 millions sont partis. Aujourd'hui, ils sont 10% de la population américaine. Vous voyez un peu les masses, 60 millions, quand vous comparez avec 1,3 milliard. Donc, j'ai pris tous les précédents pour être fair play, c'est-à-dire pour cerner au mieux l'avenir. Et les journalistes ne trouvent rien de mieux que de prendre un chiffre, 150 millions, et de dire, Stephen Smith dit, il y aura 150 millions, et donc ça ramasse le livre. Ça, c'est pas possible. Je dis, si cela se produit, ça donnera ça comme résultat. Et je dis très clairement que personne ne peut maîtriser tous les facteurs. Pensez par exemple à l'écologie, pensez aux catastrophes naturelles, les réfugiés. J'ai même pas parlé de ça.
Donc on ne sait pas d'ailleurs quelles seront les conséquences réellement sur la population.
On peut absolument pas dire. On peut dire qu'il y aura une migration d'un ordre de grandeur qui dépasse de loin ce qui s'est passé en 2015. C'est tout ce qu'on peut dire. Il ne faut pas se fixer, fétichiser un chiffre.
Quand des démographes comme François Ayrault au Collège de France disent les subsahariens représentent 1% de la population des pays européens. Bon, ça c'est aujourd'hui. Ils représenteront 3 ou 4% de la population des pays du Nord en 2050. Vous dites c'est largement sous-estimé.
Oui, et quand il applique sa méthode de prévoir au passé, c'est-à-dire en quelque sorte quand il s'attelle à prévoir le passé qui est connu, il se trompe du simple au double. Donc je ne pense pas que ça soit une bonne méthode. Les facteurs sont justement tellement multiples qu'il faut rester délibérément vague. On peut uniquement parler d'ordre de grandeur. Je vous donne un exemple. Qui aujourd'hui en France ou même en Afrique croirait qu'en France il n'y a eu que 30 000 immigrés de couleur, donc noirs, dans les années 60? Mes propres enfants, si je leur dis ça, quand je leur dis ça, ils disent mais c'est pas possible, on ne connaît pas cette France monochrome. Donc la France et l'Europe dans son ensemble s'est africanisée et ça s'est fait sans drame. Tout ce que je dis, comme il y a eu un oncle d'Amérique pour les Européens au début du XXe siècle, il y aura des Africains qui seront parmi nous, des Africains noirs qui viennent et qui deviennent des Européens noirs. Il n'y a pas de drame à cela.
Il n'y a pas évidemment de drame. Si vous prédisez quand même un drame pour l'Europe, si réellement l'Europe s'africanise.
Je n'emploie jamais le mot drame.
Vous ne parlez pas de drame, mais vous
dites de
très fortes tensions sociales.
Mais
en tout
quand
cas,
vous regardez
c'est ce que
autour,
vous dites,
hein. Oui, mais quand vous regardez autour de vous, je pense que c'est une expression extrêmement modérée, puisque vous regardez l'ensemble du continent européen, de la Hongrie où il n'y a quasiment pas d'immigrés, jusqu'à l'Italie ou l'Allemagne d'où je reviens. Quand vous voyez le choc que ça a été pour l'Allemagne d'absorber 1 million de personnes alors qu'ils sont 80 millions, donc là, je suis dans l'expression la plus modérée en disant que c'est un défi. Beaucoup d'autres parlent d'invasion, du péril noir. C'est tout un vocabulaire auquel je n'emprunte pas un mot.
Alors, seule certitude et je dirais consensus hein, entre vous et les démographes, c'est clair qu'il
les démographes, je m'excuse là, 2-3 démographes ne font pas des démographes, je suis moi-même démographe.
Oui, mais qui font autorité dans leur discipline, on va dire en tout
mais
cas.
Deux, mais deux bon. Sur combien vous d'accord. Prenez les démographes de l'Institut Montaigne, qu'est-ce que c'est comme lecture? On me dit les démographes pour d'accord. 3 personnes.
Alors, une rencontre en tout cas, ce que je disais, c'est que il y a consensus sur le fait que ce que vous écrivez, une rencontre migratoire à grande échelle se prépare entre l'Afrique et l'Europe. Ça, là-dessus, je pense qu'il y a peu de doutes. Vous parlez d'une jeunesse, alors votre regard sur la jeunesse en Afrique est intriguant. Vous parlez d'une jeunesse sans passé et sans avenir. Pourquoi, dans le fond?
Pour la simple raison...
Parce qu'elle est seule face avec elle-même, finalement, sur ce continent sans adultes.
Mais Emmanuel, quand vous regardez les chiffres que vous avez vous-même annoncés, lorsque parler d'un jeune Africain devient quasiment un pléonasme, quand vous avez 40% de la population qui a moins de 15 ans, c'est-à-dire vous avez plus de la moitié qui ne participe même à aucune élection. Quand nous parlons de démocratie, on devrait dire que la démocratie, le droit de vote, est un privilège d'âge en Afrique. Il ne faudrait pas s'étonner que la démocratie ne soit pas populaire dans un profil démographique de ce type. Numériquement, où sont les gens qui peuvent passer, les mentors qui peuvent passer les valeurs et les normes de l'ancienne Afrique? Quand vous migrez de votre village et vous allez dans une structure informelle en ville, si vous voulez appeler ça un bidonville, ce qui est le cas des 2/3 des gens, donc vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous arrivez là-bas, 95% des gens autour de vous ont moins de 30 ans. Où sont les figures qui vous enseignent l'Afrique traditionnelle? Si vous prenez en plus la révolution évangélique, qu'est-ce qu'elle est d'autre qu'une révolte contre la tradition africaine? Les femmes se réinventent, les gens se réinventent. Ils disent, au lieu de ma parentèle, j'ai mes frères et sœurs de foi. C'est ma nouvelle communauté et je fais différemment par rapport à l'ancienne Afrique. Donc l'Afrique est en train d'accomplir une révolution culturelle et nous ne voulons pas le voir.
Et générationnel. Vous iriez jusqu'à dire qu'il y a ce profil, un conflit de génération?
Oui, mais je voudrais tout de suite dire qu'on fait facilement erreur, et je l'ai fait au départ, on pense c'est les jeunes contre les anciens. Mais comme les jeunes n'ont rien à partager que le temps d'attente dans la salle d'attente, ils cherchent des alliés. Donc le conflit ne se fait pas forcément les jeunes contre les anciens, mais comme les anciens ont accumulé le pouvoir, et aussi le pouvoir économique, si vous voulez arriver quelque part, vous devez faire alliance avec les anciens. Donc ce n'est pas la mère de tous les conflits, n'est pas un conflit générationnel. Au contraire, chacun doit choisir s'il entre dans la rébellion ou plutôt s'il fait allégeance à quelqu'un qui a une rente situation à partager avec lui. Donc ce n'est pas simplement les jeunes contre les anciens.
Mais en tout cas, vous mentionnez bien une forme de ressentiment de la part des jeunes, y compris à l'égard de leur pays et des générations antérieures, d'une certaine façon.
Oui, parce que toutes les places sont prises, vous voyez bien dans les échos qui nous parviennent avec ces quelques messages, et c'est fait sans ressentiment, justement. Je trouve qu'ils voient très bien leur situation. Ils arrivent, il n'y a pas de place à prendre, ils sont obligés de partir, se réaliser, grandir ailleurs.
Alors, vous nous appelez les voisins, les voisines, bien sûr, pour discuter avec Stephen Smith, si vous le souhaitez. 33 1 84 22 71 71, nous accueillons une voisine, Nathalie. Bonjour Nathalie.
Bonjour Emmanuel.
Nathalie, vous avez 45 ans. Donc, même pour les normes de l'Union africaine, vous n'êtes plus qualifié de jeune. Désolée.
Vous travaillez. Oui, je parle.
Mais bien sûr, vous avez la parole. Alors, on a envie d'avoir votre sentiment sur les analyses de Stephen Smith et puis surtout ce que vous voyez aujourd'hui et les désirs de cette jeunesse africaine de quitter le continent africain.
Si aujourd'hui je suis à l'antenne, c'est pour plus mon enfant. J'ai un enfant de 22 ans.
Oui.
Qui lui aussi, comme tout est tout jeune, il espère aussi, il est en train de penser aussi d'aller en Europe. Donc, de peur que, autant qu'une maman, que ça ne puisse pas lui arriver, je lui montre les bienfaits, ce qu'on a ici en Afrique et tout ce qui se passe ici en Afrique.
Vous êtes congolaise installée au Cameroun, hein, c'est bien cela?
Oui, je suis congolaise, je suis installée ici au Cameroun dans le cadre de mon travail. Je travaille au CEMAC. Et j'ai un garçon, il a déjà 22 ans, il est en BTS. Donc, quand je vois les gens d'ici, comment la façon dont ils se démerdent, même je me suis inscrite en master. Comment je vois des jeunes Camerounais, comment ils sont à l'école, inscrits, et les vendredis, les samedis, ils sont dans les champs pour avoir l'argent pour payer leurs études. Comment ils sont motivés pour la réussite? Comment ils font les cultures? Tout le monde, petits, enfants, comment ils font? Chaque jour, je dis à mon fils, l'avenir, ce n'est pas seulement en Europe.
Oui.
L'avenir, c'est ici, en Afrique. Si chacun de nous peut mettre la main dans la boue pour que nous puissions faire quelque chose d'extraordinaire pour notre beau pays, pour notre beau continent, mais on n'aura plus envie d'aller en Europe. Effectivement, d'ici 30 ans, je ne vois pas pourquoi les Africains continueront toujours à aller. Mais ça sera maintenant le tour des Européens de venir. C'est ce que je ne cesse à dire à mon enfant.
C'est ce que certains font déjà d'ailleurs, hein, puisque pour faire du business et pour monter des entreprises. Merci Nathalie de nous avoir appelé. Alors reste à savoir, Stephen Smith, si la volonté, l'agilité, la motivation des jeunes Africains qui ont envie de rester sur le continent sera suffisante par rapport à ce que vous appelez finalement l'effet de masse.
Ma sympathie est tout à fait avec l'auditrice et j'achève le livre en disant si toute l'énergie qui est aujourd'hui investie dans le départ, dans la préparation du départ, était investie dans
l'argent.
Le continent et l'argent, à quoi ressemblerait le continent? Donc je ne pourrais pas être plus d'accord avec elle. Les faits sont cependant un peu têtus. La différence entre le niveau de vie en Europe et en Afrique, c'est 1 à 20 et l'Europe, avec 7% de la population mondiale, dépense la moitié des dépenses sociales dans le monde. Ce qui veut dire que si je suis africain et je regarde autour de moi et je pense à la finitude de ma vie et à l'avenir de mes enfants, le projet migratoire est terriblement tentant puisque je voudrais assurer la bonne éducation de mes enfants et me trouver dans un espace de sécurité qui me permet de m'épanouir au mieux. Mais je comprends parfaitement. Et le moment viendra que les gens préfèrent rester en Afrique, mais il me paraît à une ou deux générations d'aujourd'hui.
Gaëtan nous appelle de Porto Novo au Bénin au 33 1 84 22 71 71. Gaëtan, vous avez 30 ans, vous êtes en recherche d'emploi depuis 2016, c'est bien cela?
Oui.
On vous écoute, Gaëtan.
Ok, je pense que le problème lié à l'emploi est à la cause de tout ce que nous observons par rapport au phénomène migratoire. C'est vrai, comme l'a dit votre invité, quand on regarde le niveau de vie en Europe, on est tenté vraiment de choisir le projet migratoire et d'aller dans un milieu, dans un espace économique où le niveau de vie est relativement plus, en tout cas, offre plus de garanties et d'opportunités. Mais je pense que tout cela est illusoire aujourd'hui parce que si tu quittes ton continent, tu quittes ton pays pour aller dans un pays où tu n'as pas les compétences pour compétir sur le marché et le moyen par lequel tu décides d'y aller, prendre par la mer et au péril de sa vie, je pense que tout cela est illusoire. Il y a beaucoup de choses à faire pour s'en sortir et réussir sa vie, mais la méthode que les jeunes utilisent à cause des exemples des amis qui quittent le continent et qui reviennent pour montrer que tout va bien en Europe, ça va très bien avec la mondialisation, les réseaux sociaux, tout ce qu'ils voient sur les nets, partout. Ils se disent que tout va très bien là-bas, alors que peut-être la réalité est tout autre. Vous avez des amis avec qui vous avez fréquenté, ils reviennent, ils s'achètent une maison, ils construisent. Et puis, bon, au regard de tout ça, ils se disent que tout va bien là-bas. Ils viennent vendre cette illusion ici. Et puis, bon, à regarder ça, le jeune qui souffre, il a vécu la même situation que l'autre. L'autre est parti, il est revenu, et puis il montre que tout va très bien là-bas. L'autre aussi est tenté de partir.
Ouais, ouais.
Et c'est ça qui motive beaucoup les gens à choisir l'option, à faire cette option de partir.
Ouais. Merci Gaëtan de nous avoir appelé de Porto Novo. Gaëtan faisait l'allusion aussi à l'aide trouvée par les migrants, par les diasporas et par effectivement le réinvestissement des diasporas considérées comme de l'aide au développement et plus importante d'ailleurs que les politiques d'aide au développement dans le pays d'origine, quelles que soient les raisons d'ailleurs pour montrer qu'on a réussi ou pour aider son pays d'origine. Vous êtes très critique sur les diasporas, Stephen Smith.
Oui, je suis très critique, mais pas parce que je suis critique à l'égard des diasporas, mais c'est de l'argent gratuit, c'est pas des investissements, c'est-à-dire vous renvoyez de l'argent et c'est comme vous dites, comme l'aide au développement. Est-ce que l'aide au développement est développée ? Non, malheureusement pas. Les centaines de millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté, c'est en Chine, c'est pas en Afrique. Et donc l'aide au développement est de l'argent gratuit. Malheureusement, elle n'a pas développé puisque ce n'est pas des investissements. Et lorsque
l'aide au développement a favorisé beaucoup la scolarisation et d'ailleurs vous dites que c'est ce qui va favoriser l'émergence, c'est ce qui va favoriser la migration.
Donc, mais la scolarisation
est
toujours une bonne chose.
On ne peut pas dire que l'aide au développement est inutile puisque
Elle est inutile.
Vous l'accusez.
Elle est contre-productive. Je pense que ce serait un autre débat.
Oui.
Mais comment peut-on dire au bout d'un demi-siècle d'aide au développement qui n'a absolument pas développé l'Afrique et d'autres parties du monde sans l'aide au développement se sont développées. Donc je pense qu'il faut faire un bilan critique. Ce n'est pas le lieu pour le faire. Cela dit, quand vous renvoyez de l'argent qui peut permettre la scolarisation, prendre en charge les frais de santé, construire une maison, tout ça, ça aide les gens, mais ça ne développe pas les pays. On n'a jamais développé un pays, c'est-à-dire augmenter la productivité. On attend encore la révolution verte en Afrique. Ce n'est pas avec des rétro-transferts qu'on va l'accomplir. Donc, il faut être lucide. Là où je trouve très intéressant l'argument, les gens qui partent du village de Gaëtan, lorsqu'ils partent en ville, les villageois aujourd'hui avec les téléphones mobiles savent très bien que les conditions en ville ne sont pas bonnes. Mais l'exode rural continue. Parce qu'on ne cherche pas seulement le mieux-être économique, on cherche l'aventure, on cherche à participer à la modernité. Donc les gens quittent les villages où ils seraient nourris parce qu'ils cherchent quelque chose qui aille au-delà. Ils vont en ville, ils vivent dans des taudis, mais ils restent quand même en ville. On n'a jamais vu un reflux.
Parce qu'il y a plus d'accès à l'école, plus d'accès aux soins de santé.
Vous êtes plus facilement dans la misère, dans un taudis à Lagos que au village.
Il y a plus d'accès à la scolarisation dans les capitales africaines et aux soins de santé, même si on habite dans un quartier pauvre.
Oui, d'accord, mais ce n'est pas le rêve du bonheur. Et c'est-à-dire, lorsque vous rapportez la réalité de la ville, de la vie en ville au village, ça ne retient pas les villageois chez eux.
Alors, on va donner la parole au directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Bonjour, Issiaka Konaté.
Bonjour.
Vous avez entendu Stephen Smith, vous êtes au sommet de Marrakech à l'heure actuelle, et bien sûr on va en parler. Votre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays en paix, où les jeunes ne sont pas menacés par la famine, avec une croissance économique importante, ça ne veut pas dire qu'elle est bien répartie, mais et qui pourtant lance un nombre important de jeunes sur les routes migratoires vers l'Europe. Comment vous expliquez ce paradoxe par rapport à ce qu'on vient d'entendre et ce que vient de nous expliquer Stephen Smith?
Alors nous, on a toujours expliqué qu'il faut relativiser. D'abord, comment est-ce qu'on détermine la nationalité des personnes qui arrivent dans le pays d'accueil? Quelqu'un qui est dépourvu de tout document d'identité, qui se réclame d'une certaine nationalité, et on fait des statistiques, on attribue des chiffres au pays sans véritable moyen de vérification. Nous, on dit que c'est ce genre de contrôle est biaisé. Ensuite, il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire est à la fois un pays d'accueil, un pays des transits et un pays des départs. Nous, on ne dit pas les trois statuts. Mais je rappelle, notamment à vous inviter, que la migration intra-régionale, elle n'est pas de 70%. Vous appelez le bureau local de l'OIM, elle est de 85% pour nous dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. Et la Côte d'Ivoire, c'est 26% de population environ d'origine étrangère. Donc, c'est un héritage dont on est fier, qu'il faut assumer. Nous avons eu nos difficultés. Nous continuons. Il y a des Ivoiriens qui partent sur la route de la migration. Pour cela, l'État a mis en place un certain nombre.
9 000 sont arrivés en 2017 par les routes de l'Italie.
9 000 présumés, on va dire encore. Et qui mieux que
vous
le
avez
pays
raison qu'il
peut déterminer, le pays d'origine peut déterminer la nationalité de ses ressortissants. Il faut quand même être un peu plus sérieux que ça au niveau des chiffres. Nous, on dit, vous avez quelqu'un en face de vous qui se réclame d'une nationalité, qui n'a aucun document d'identité, et vous dites, vous lui accorder une nationalité en fonction de vos pouvoirs de décision. Oui. Moi, je dis non. Il faut que la personne prouve sa nationalité.
Ça veut dire que vous ne partagez pas le constat de Stephen Smith sur la démographie africaine qui va lancer des millions d'Africains sur les routes vers l'Europe. Et vous pensez que cette mobilité va rester intra-africaine comme elle l'est déjà ici à Kakonaté?
Tout à fait. Moi, M. Smith, je le respecte pour beaucoup de travaux, notamment dans le domaine du développement. Je salue certains des travaux, mais je suis complètement opposé à la thèse selon laquelle il va avoir un déferlement humain. Vous savez, ce genre de choses, il faut bien comprendre ce qui se passe dans la région d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Quand même, un pays comme la Côte d'Ivoire, nous l'avons vu, quand nous avons 26% de population d'origine étrangère, nous disons que les personnes se déplacent, mais restent fondamentalement dans la zone d'Afrique de l'Ouest. Et ça doit être bien communiqué, il faut que les gens le sachent. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on ne donne pas un livre de poche à l'extrême droite et que certains arguments soient utilisés. J'ai entendu M. Smith qui refute la thèse de M. Héran, mais quand même, M. Héran est un spécialiste de la question et il a rétorqué que le nombre de personnes, c'est seulement 3 personnes. J'ai dit, le nombre ne fait pas forcément... C'est pas parce qu'il y a 500 personnes qui disent quelque chose qu'elles ont raison. Ça, ce n'est pas non plus logique. Il y a un certain nombre d'argumentaires. Bon, je dis que la migration, elle va rester dans les régions d'Afrique de l'Ouest. Mais nous devons continuer le travail que nous faisons. Nous devons travailler dans le domaine de la formation professionnelle. Nous devons continuer d'apporter des appuis aux jeunes. Nous devons encourager le retour des diasporas vers les pays.
Malgré le chiffre nécessaire pour répondre aux besoins d'emploi des jeunes, 22 millions d'emplois à créer chaque année. Hein. C'est le chiffre.
Oui. Madame, quel est l'élément déclencheur de ce qu'ils appellent la crise migratoire? Est-ce la question de la fécondité dont ils parlent aujourd'hui, dont on nous ressasse les oreilles? Non.
La crise migratoire, c'est la question de l'emploi, on est bien d'accord.
Je vais vous donner 2 éléments. D'abord, dans notre région, la crise intervient après l'effondrement de la Libye. C'est le premier problème que nous avons eu. Le deuxième problème, nous, en Côte d'Ivoire, il y a un rapport de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, qui est l'organisme des Nations Unies pour les migrations. Sur 2000 personnes que nous avons interrogées de retour de la Libye, je rappelle que nous avons fait revenir de la Libye 4927 personnes et 6552 personnes du reste du monde. Et c'est sur ces 2000 personnes interrogées, 85% avaient un emploi rémunéré lorsqu'elles partaient vers la Libye. Donc il faut faire attention. Il y a un certain nombre aujourd'hui de choses. Lorsqu'il y a de l'insécurité, lorsqu'il y a la guerre dans les zones, lorsqu'il y a des problèmes climatiques, lorsqu'il y a la recherche de mieux-être, qui est un besoin fondamental, reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les gens partiront s'ils cherchent un mieux-être.
Ouais. Ici à Kakonaté, il nous reste très peu de temps, le pacte mondial sur les migrations piloté par l'ONU, vous en attendez quoi, sachant qu'il y a déjà 9 pays qui se sont retirés du pacte, dont 6 pays d'Europe, hein, l'Autriche, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne, la Lettonie. Vous, qu'est-ce que vous en attendez en tant que directeur général des Ivoiriens de l'extérieur? Juste en un mot, hein, vraiment, s'il vous plaît, ici à Kakonaté.
En un mot, ce que j'entends, c'est qu'il y a un minimum de consensus sur la question migratoire fondée sur le respect des droits humains. On est au 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est grand temps qu'au-delà de tous les discours de l'extrême droite ou de ceci ou de cela, qu'on se concentre véritablement sur un fait. Un migrant, c'est avant tout un être humain.
Merci Siaka Konaté, vous êtes le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Sur la question de la natalité, Stephen Smith, comment expliquez-vous que la discussion soit compliquée? Effectivement, aujourd'hui, beaucoup disent que la natalité n'est pas le problème et n'est pas ce qui jette les Africains sur les routes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, puisque vous dites le contraire?
Je pense que c'est un mauvais débat, parce que vous dites que la natalité n'est pas le problème.
5 enfants par femme en moyenne sur le continent.
Oui, très bien. Et si la natalité n'est pas le problème, la productivité doit être le problème, parce qu'à l'arrivée, on a quand même la pauvreté et le manque. Et donc, le manque, vous pouvez y pourvoir, soit en augmentant la productivité,
soit en diminuant la natalité.
Voilà, et donc je pense que c'est jouer l'un contre l'autre. Il me semble que la recette la plus simple, en tout cas au niveau individuel, pour enrichir votre PNB par tête habitant, c'est quand même de diminuer le nombre de ceux par lesquels vous partagez. Après, vous pouvez essayer d'avoir une meilleure productivité. Si la productivité africaine était au niveau des Américains, par exemple, évidemment, ça ne posera pas de problème. Mais ce n'est pas le cas. Donc, il faut s'ajuster à la réalité. Et je pense que c'est une question extrêmement sensible, sauf Habib Bourguiba en Tunisie, au lendemain de l'indépendance. On n'annonce pas une population. Vous êtes enfin moins libre par rapport au régime colonial, et maintenant on va diminuer notre nombre, on va changer, donc on est dans l'euphorie, c'est normal, et je pense que c'est une richesse d'avoir des enfants, ce n'est pas pour dire le contraire, mais vous devez, par rapport aux conditions pour les éduquer et pour leur donner un emploi, réfléchir à ces investissements.
Ça devrait être la priorité des gouvernements en Afrique aujourd'hui.
Mais aussi des personnes, parce que c'est pas seulement les gouvernants qui vont faire ça par
décret. Il faut des politiques publiques de contraception, comme il y a eu en Europe.
Pas coercitif, mais d'incitation.
Ouais, tout à fait. Les scénarios d'avenir. Alors, vous détaillez rapidement à la fin de votre livre 5 scénarios d'avenir. Il y a un scénario qui est complètement catastrophiste, Eurafrique, hein. Rajeunissement de l'Europe par les migrants africains avec un modèle de type américain, fin totale du modèle social européen, de la sécurité sociale. En gros, on est dans le chacun pour soi, avec comme nouvelle frontière l'apparence physique et des discriminations plus marquées que jamais. C'est un peu ce qu'on comprend quand même.
Mais pour moi, c'était le scénario euphorique.
Oui.
C'est-à-dire, c'est embrassons-nous. Et donc, ce n'est pas du tout catastrophique. Moi, je viens d'un pays d'immigration.
Mais pour l'Europe, le scénario américain un scénario positif.
Très bien, mais à chacun de juger. Après tout, je dis que c'est à peu près l'Allemagne qui a sa culture de bienvenue.
Mais quand vous parlez des nouvelles frontières de l'apparence physique, franchement, ce n'est pas positif.
Ça vient. Je constate que ça joue un rôle de plus en plus, puisque quand vous parlez de diversité, ce n'est pas la diversité, on ne compte pas les orphelins, puisqu'on ne le voit pas. Ce qu'on compte, c'est ce qu'on voit. Donc, c'est les marqueurs physiques d'altérité. Et donc, dès qu'on parle diversité, on voudrait que sur l'affiche à l'hôtel où on se trouve, il y ait un petit noir, une petite chinoise, etc. On appelle ça diversité. C'est plus la diversité d'opinion ou la diversité socio-économique. Donc, on y est déjà.
Donc ça, c'est le scénario le plus probable pour vous ?
Non, je ne crois pas. Je pense d'ailleurs, vous voyez bien avec la montée du populisme, je pense que le scénario le plus probable et intellectuellement le moins stimulant, c'est-à-dire c'est une façon de se débrouiller, c'est-à-dire de faire un peu plus de sécurité, surveiller les frontières, un peu plus d'ouverture pour permettre à des Africains de venir, mais dans un cadre différent, par exemple par une migration circulatoire. Les gens viennent pour 3 ans, mais sans leur famille. Ils repartent ouvrir...
Dans votre livre, vous parlez clairement d'une immigration choisie.
Oui, mais je ne trouve rien de mauvais. Une frontière est un espace de négociation. Mmh. Si les gens qui habitent dans un pays, et ce sont tous les gens, tout le monde qui a un passeport français, doit décider qui entre dans la maison de France. Dire le contraire me paraît un peu absurde.
Donc ça serait ce scénario-là, une sorte de bricolage, de mélange de tous les scénarios. Vous ne croyez pas une Europe forteresse ? La bataille vous semble perdue d'avance, hein ?
Non, c'est parce qu'elle est perdue d'avance. On voit d'ailleurs qu'on peut très bien ériger des murs, mais je ne trouve pas ça souhaitable et je ne crois pas que dans les ordres de grandeur dont on parle, on pourra livrer bataille pour défendre une Europe en quelque sorte européenne et au pire avec les extrémistes blanches, ça me paraît aberrant, le mélange des gens me paraît tout à fait normal, mais dans des proportions qui ne fassent pas de ceux qui ne migrent pas des migrants parce que leur quartier change tellement vite qu'ils ont l'impression qu'ils ont déménagé.
Mais alors finalement, quel est aujourd'hui le choix politique possible pour les gouvernements européens et pour d'ailleurs aussi, alors pour les gouvernements africains, vous l'avez dit, redonner de la place à une priorité sur la productivité, agir sur la natalité, mais pour les gouvernements européens ?
C'est d'expliquer d'une part que l'Europe s'est africanisée depuis un demi-siècle et que ça s'est fait sans drame, que ça va continuer, mais qu'il faut une régulation puisque ça doit se faire à un rythme qui soit absorbable. Vous voyez très bien ici en France, nous sommes dans un contexte où en gros les gens disent il faut y avoir, et c'est horrible parce que c'est le mot d'ordre de l'extrême droite, il faut une préférence nationale. On n'est plus prêt à payer pour les autres qui viennent ici. Donc il y a un moyen, il y a un volet d'explication à faire, il y a aussi un volet pour rassurer, puisqu'on ne peut pas abandonner le terrain, et ce n'est pas sain d'oublier que finalement, chaque pays, les Japonais décident qui entre au Japon, ils ont décidé qu'il y a peu de migrants. Moi, je vis dans un pays qui, dans l'ADN, c'est laissons entrer tout le monde. Mais quand vous laissez entrer tout le monde aux États-Unis, ça veut dire que vous avez un capitalisme coupe-gorge. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, la question de la frontière est aussi liée au modèle de l'État-providence ou de l'absence de l'État-providence.
Ça veut dire que l'Europe sera obligée d'abandonner son modèle d'État-providence.
Trouver un compromis entre l'État-providence et l'ouverture des frontières.
C'est ce qui sera le plus compliqué.
Ça sera le plus compliqué.
Vous restez avec nous, Stephen Smith. Dans quelques instants, on va donner la parole à l'ONG Internet sans frontières. Touche pas à mon Internet, c'est un sentiment de plus partagé sur la planète. On en discute avec Julie Ono à l'occasion des 70 ans des droits de l'homme.
7 milliards de voisins.
Oui. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Oui, Zolo. Soyez les bienvenus.
À l'occasion de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on fait le point sur Internet comme droit humain au XXIe siècle. Avec vous, Julie Owono, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'ONG Internet sans frontières. Alors, vous qui défendez la liberté de l'Internet, quel regard vous portez là sur la démographie africaine qui serait vouée à prendre inexorablement les routes vers l'Europe? Vous avez entendu les propos de Stephen Smith. Juste un mot peut-être de réaction avant qu'on ne parle de l'Internet.
Oui, alors c'est effectivement une obsession très européenne et très occidentale, même on peut dire en ce moment, puisque même une ancienne candidate américaine, Hillary Clinton, invite les Européens à repenser leur politique d'accueil migratoire. Alors nous, enfin moi à titre personnel, mais aussi dans le travail que je fais, notre travail est de dire... C'est des personnes qui s'en vont, personne n'a envie de partir de chez lui dans les conditions dans lesquelles ces gens s'en vont. Et le plus d'opportunités qui pourront être créées sur le continent, le moins, ces personnes-là auront envie de partir dans des conditions aussi terribles. Et surtout, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que l'Union européenne, de toute façon, est déjà une forteresse pour beaucoup de citoyens, d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs, d'intellectuels, de penseurs africains. En raison de cette peur-là qui n'est pas nouvelle. Donc, à titre personnel, je travaille surtout à titre vraiment personnel à la création d'opportunités intéressantes sur un continent où il y a énormément, beaucoup de choses à faire, où les opportunités existent. Et justement, grâce à un outil comme
Internet,
qui permet aujourd'hui à des jeunes de voyager et d'être considérés comme des personnes et des citoyens normaux et non pas seulement comme une menace migratoire qui viendrait envahir l'Europe.
Ou d'accéder à la connaissance. Vous dénoncez néanmoins, Julie Owono, la montée de l'autoritarisme numérique en 2018. En Afrique avec des décrets, des lois, des taxes, des harcèlements, des intimidations, des arrestations. Peut-être que vous allez nous donner quelques exemples, mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est justement ?
Alors paradoxalement, il y a du mieux en termes de connectivité. L'UIT, donc l'Union internationale des télécommunications, vient juste de publier son rapport sur l'état de la connectivité dans le monde et il nous explique que désormais plus de 50% de la population mondiale est connectée à Internet. Donc ça veut dire qu'il y a, il y a plus de connectivité, notamment en Afrique. Je crois qu'en 2018, il y a eu un bond de, je crois, 20% en une seule année dans beaucoup de pays du continent, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais c'est vrai que parallèlement à cela, on observe toujours d'ailleurs une radicalisation, si je puis m'exprimer ainsi, de la perception d'Internet par certains gouvernants, qui au départ laissaient un peu les gens y faire ce qu'ils voulaient, hein, on peut dire ne s'en préoccupaient pas plus que cela, mais qui aujourd'hui voient surtout l'outil comme une menace et multiplient aussi bien les lois contre la cybercriminalité, mais qui en réalité ont pour objectif de lutter contre l'expression libre, de lutter contre la vie privée des citoyens, dans le but de préserver la sécurité de l'État, mais la sécurité pas seulement contre des faits de guerre, mais aussi la sécurité contre des renversements de dictature, parfois, mais aussi... multiplication de, vous le disiez tout à l'heure, de taxes. Oui. C'est un phénomène très nouveau et très innovant d'ailleurs que l'on doit paradoxalement au continent africain, où des États innovent en imposant des taxes sur l'utilisation de services extrêmement plébiscités, notamment WhatsApp ou bien certains réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. On taxe l'usage de ces outils dans le but, dit-on, de faire participer les grosses entreprises, donc les GAFAM, comme on les appelle, Google, Facebook, Amazon, etc., à la richesse nationale, donc au paiement de l'impôt. Mais en fait, en réalité, la réelle justification, c'est d'empêcher justement l'accès à l'information, la circulation libre de l'information et de la parole,
C'est le cas notamment pour la Tunisie avec sa loi d'avril dernier, me semble-t-il, contre les blogueurs, avec une taxe due à l'État par les blogueurs de $900.
Alors en Tanzanie aussi une telle loi existe. D'ailleurs la Tanzanie est un très bon exemple puisque c'est un pays où l'accès à Internet a fait éclore une jeunesse qui a été créative, qui a créé beaucoup sur les réseaux sociaux, inspiré notamment par le voisin kényan, qui est aussi un des pays les plus dynamiques sur la scène numérique en Afrique.
Qui du coup inquiète les pouvoirs publics.
Mais ce dynamisme inquiète les pouvoirs publics à tel point qu'aujourd'hui, effectivement, pour pouvoir bloguer en Tanzanie, il faut payer $900. Et le pire, c'est que dès lors que vous avez un Twitter ou dès lors que vous avez une page Facebook qui est suivie par un certain nombre de personnes, on va considérer que vous avez un blog et donc une page d'opinion publique et donc vous devez payer cette taxe-là.
Julie Owono, il nous reste quelques secondes. On assiste quand même à une mobilisation croissante sur la liberté d'expression, mais aussi sur l'accessibilité à un faible coût. On a vu la mobilisation au Bénin, touche pas à mon Internet, contre la taxe Internet. Est-ce que l'Internet africain est toujours le plus cher du monde en quelques secondes ?
Ah oui, il est toujours le plus cher du monde et ça reste une mobilisation. Mais pour revenir rapidement sur la Déclaration internationale des droits de l'homme, la Déclaration universelle, aujourd'hui, nous, on lance une campagne justement pour renforcer l'idée que les droits de l'homme ne sont pas que les droits, enfin, les droits qui sont proclamés dans la Déclaration universelle sont aussi des droits qui sont pratiqués en ligne et doivent être protégés exactement avec la même force que les droits qui sont déclarés dans la Déclaration universelle dont on fête l'anniversaire aujourd'hui.
Et c'est pour ça que vous étiez à l'antenne en direct chez 7 milliards de voisins. Merci à vous, Julie Owono, donc directrice de l'ONG Internet sans frontières. Dans quelques instants, l'Afrique qui gagne, comme chaque lundi, et d'ailleurs c'est souvent grâce à Internet.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
L'Afrique qui gagne, chaque lundi, on donne la parole à ceux qui font l'Afrique de demain. Aujourd'hui, portrait de Mamadou Sall, sénégalais, 30 ans. Il y a un an et demi, il a cofondé Beysedo 2.0. C'est une bourse agricole qui met en relation des agriculteurs, souvent sans accès au financement bancaire, avec des investisseurs en ligne. Du financement participatif un peu particulier, puisqu'il s'agit pour ceux qui investissent en ligne de toucher des intérêts si la récolte est bonne, bien sûr. Charlie Dupuy a rencontré Mamadou Sall à Marseille à l'occasion du Social and Inclusive Business Camp fin novembre. On l'écoute, Mamadou Sall.
J'ai grandi au Sénégal, j'ai fait mes études à Thiès. Mes vacances, je les passais souvent aussi en zone rurale, au Fouta, où j'ai pas mal de parents qui évoluent dans le domaine de l'agriculture, mais aussi j'ai eu à côtoyer des oncles également qui travaillent dans les organisations paysannes.
Est-ce que vous avez appris à travailler la terre?
Je vais vous dire, ça va peut-être vous surprendre, c'est pas quelque chose que j'ai appris. Quoi que l'on puisse dire, t'as pas besoin d'être agriculteur pour entreprendre dans le secteur agricole.
Et de quel métier vous rêviez quand vous étiez enfant ou adolescent?
Bon, moi, dans un premier temps, quand j'étais étudiant, ce que j'avais pour objectif jusqu'en 2013, c'était de finir mes études en gestion, d'être un docteur en gestion et d'enseigner à l'université. Mais en 2014, il y a eu un phénomène quand même qui m'a poussé à quitter l'université. J'étais en master 2 déjà, parce que j'avais suivi un film de Ashton Kutcher sur Steve Jobs.
Le fondateur d'Apple.
Oui, le fondateur d'Apple. Quand j'ai suivi ce film, j'étais en vacances à Thiès, je devais retourner à l'université en octobre, je ne suis pas retourné. Il y a eu une passion quand même qui m'a poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Steve a juste... il voulait changer le monde.
Tout simplement, et donc vous avez envie de faire comme lui.
Ouais. Moi, je n'ai pas un livre de chevet, j'ai un film de chevet qui a eu le mérite de me donner un déclic quand même dans ce que je fais. Quand tu quittes Dakar pour aller à Saint-Louis, le long de la route, tu vois des hectares de terre à perte de vue et qui sont inexploités. Et là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Il y avait quelque chose à faire et c'est ce qui nous a motivés aussi à retourner en zone rurale, à échanger avec nos parents agriculteurs pour savoir pourquoi vous avez des terres et vous ne les exploitez pas. Et la réponse, c'est quoi? On a des terres, mais on n'a pas les moyens de les exploiter. Et donc on s'est dit, puisqu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui veulent investir dans le secteur agricole, puisque de l'autre côté, il y a des agriculteurs qui ont des terres, donc ça c'est leur quotidien, mais ils n'ont pas accès au financement. Autant trouver un modèle fiable, un modèle win-win, un modèle qui permettrait à tout un chacun d'y voir son compte et qui permettrait quand même de connecter ces deux mondes-là. Et c'est de là que Naki Beysedo 2.0, qui est une bourse agricole, qui a pour ambition d'être une bourse agricole africaine. Actuellement, on a démarré au Sénégal, on est sur plus de 55 hectares. On a pu investir plus de 121 millions dans des exploitations agricoles.
De francs CFA?
Ouais, de francs CFA.
En euros, ça fait...
disons 200 000 euros, quelque chose du genre. Ça peut être la production agricole maraîchère céréalière, ça peut être la production avicole, mais aussi ça peut être ultérieurement la pisciculture, l'aviculture ou la pêche de manière générale.
Alors, vous lancez donc Beysedo. Beysedo, qu'est-ce que ça veut dire?
On cultive, on se le partage. C'est un langue wolof.
Vous avez été combien à monter cette plateforme?
On était 3. On l'a lancé en 2017. Après, on était 5. En fait, de la manière dont on procède, on voit les coopératives agricoles qui recouvrent des milliers de paysans. On discute avec eux. On dit on va faire de l'oignon sur 30 hectares, à titre d'exemple. Ça, c'est un exemple d'un projet qu'on a eu à effectuer actuellement. 30 hectares d'oignon, il faut, disons, 25 millions. On prend ces 25 millions, on divise ça en départ. départ de 50 000 ou de 100 000 francs, soi-disant 150 euros. Et on le met en ligne sur notre plateforme, comme le principe du crowdfunding.
Le financement participatif.
Le financement participatif. Donc toi, comme moi, comme d'autres personnes, comme ceux qui sont dans la diaspora, peuvent acheter des parts, investir et prendre des risques avec nous. Et s'ils investissent, on finance les producteurs en intrant. C'est-à-dire qu'on ne donne pas l'argent directement, mais c'est des financements en nature en quelque sorte. On achète les engrais nécessaires, les produits phytos nécessaires, les semences nécessaires et tout ce qui concourt à l'activité de production et on leur met à disposition. Ils exécutent le travail de production. Et nous, on fait des supervisions et avec pour objectif aussi de faire des reportings à nos investisseurs. Et à terme, après récolte et commercialisation, l'investissement de départ est retourné aux investisseurs et les bénéfices sont répartis entre les différentes parties prenantes. Disons 50% des bénéfices aux producteurs, les 50% restants, nous et les investisseurs, on se les partage, 25-25%. Et c'est des programmes qui durent 6 mois, maximum 12 mois. Donc selon des campagnes d'oignons, de riz ou de poulet ou de pommes de terre. Parce que nous, ce qu'on fait, au fait, on ne procède pas comme les plateformes de crowdfunding habituelles. Ils prélèvent une commission sur le montant levé. Alors que nous, on veut prendre du risque avec les agriculteurs et les investisseurs. Parce que si on se limitait juste à mettre en relation agriculteurs et investisseurs et on prélève un montant, une commission sur le montant levé, les investisseurs seraient frileux à investir chez un agriculteur qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu et qu'ils ne peuvent pas superviser.
Justement, il y a un risque.
Maintenant, pour les risques, on essaie de voir toujours comment les atténuer. Il y a des polices d'assurance, par exemple, qui existent au Sénégal, mais assez timides quand même sur le riz et l'oignon, qui permettent en cas de sinistre de pouvoir au moins couvrir 80 à 90% du capital investi.
La commission que vous prélevez de 25% sur les bénéfices, elle prend en compte ce risque ? C'est le coût de la gestion du risque ?
Je peux dire que c'est le coût de la gestion de risque, c'est le coût du suivi.
C'est beaucoup 25%.
Mais il faut voir aussi sous l'angle également que l'agriculteur qui n'avait pas accès au financement, on lui permet, au lieu de faire 1 hectare, de pouvoir faire 5 hectares ou 10 hectares. Actuellement, on est avec plus de 80 agriculteurs dans la zone nord du pays. On a eu plus de 135 investisseurs qui ont investi via notre plateforme, donc dans des exploitations agricoles. Ils sont au Sénégal, ils sont en France, aux États-Unis, en Belgique. Ils sont de la diaspora.
Et au Sénégal, c'est quel profil qui investit ?
Un petit peu, c'est les cadres d'entreprise.
Mamadou Sall, qu'est-ce que c'est pour vous, l'Afrique qui gagne ?
Je le dis haut et fort parce que j'y crois. C'est parce que l'Afrique doit devenir le grenier du monde. L'Afrique est appelée à nourrir le monde parce qu'on a 61% des terres cultivables inexploitées dans le monde qui se trouvent en Afrique. Si je prends l'exemple de notre pays, le Sénégal, on importe beaucoup le riz, par exemple. Si on ne le produit pas, on est obligé d'aller en Chine, en Thaïlande, en Inde pour importer du riz. Donc si ces pays-là ne parviennent plus à exporter du riz, ça va créer vraiment des crises à n'en plus finir chez nous. Le riz, c'est notre aliment de base. Donc un Sénégalais sans son tchéboudienne, c'est inexplicable. Donc c'est à nous, jeunes Africains de la diaspora ou autres, de travailler pour pouvoir développer notre secteur agricole.
Stephen Smith, alors qu'est-ce que vous en pensez ? L'Afrique pourra nourrir le boom démographique du continent ?
Ouais, il y a 400 millions d'Africains qui ne mangent pas à leur faim. Et donc j'ai l'impression, moi j'aimerais aussi beaucoup célébrer les figures de réussite, et il y en a bien sûr, mais malheureusement c'est pas généralisable. Quand vous regardez qu'au Togo, un tiers de tous les adultes ont déposé un dossier, donc ils sont allés chez le médecin, ils ont argumenté leur affaire pour émigrer légalement aux États-Unis. Partout, les gens disent à 40% qu'ils veulent partir. Donc tout le monde part et on fait comme si on ne voyait pas le frère et la sœur qui partent, la famille au village ou dans les quartiers en ville. La réalité, elle est là.
Et donc, plus l'Afrique va sortir de la pauvreté, plus elle va partir sur les routes,
oui,
vers les routes européennes.
Oui,
pour
moi, la migration n'est pas un drame ou un danger, mais je me place d'un point de vue africain. J'ai des amis africains, je vois des gens partir, donc je constate que c'est quand même assez dramatique la décision qu'ils prennent, puisque c'est toujours très courageux.
Alors on se donne rendez-vous dans 30 ans, Stephen Smith.
J'ai un peu peur pour mon avenir.
Allez, la longévité est là. Merci à vous d'être venu en direct chez 7 milliards de voisins. La ruée vers l'Europe, la jeune Afrique en route pour le vieux continent. Et c'est publié chez Grasset. Merci à vous tous les voisins.